culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour, bonjour, bienvenue chers auditeurs à ce nouveau culte espoir. Je suis cette semaine bien accompagnée par mes amis chroniqueurs Amandine et Brian, bienvenue.
Merci
pour
beaucoup.
Cette introduction.
C'est vraiment chouette de pouvoir faire cette série avec vous.
Mais tout à
plaisir
fait.
Plaisir partagé.
Et ensemble, bien, nous accueillons notre invité pour deux cultes, Nevin Sinenden.
C'est ça. Et elle a bien prononcé ton nom, parfait.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter?
Ben voilà, je suis Nevin Sinenden, je viens de l'île Maurice. Je suis marié, une fille qui va avoir 5 ans en octobre, dans quelques jours.
Ouais, joyeux anniversaire.
Et ensuite, ben, je suis pasteur, j'ai commencé mon ministère à l'île Maurice pendant 6 ans. Et après, j'ai fait une pause pour les études ici en France et maintenant je suis pasteur en France.
Oh, ok. Quitter l'île Maurice pour venir en France.
Faut pas
quoi.
Dire ça comme ça.
C'est... ça. C'est de la vocation.
Voilà, je suis à Saint-Julien et au Pays de Gex.
D'accord. Okay. Excellent. Eh bien, merci de cette petite présentation. Aujourd'hui, on attaque un sujet sensible. L'orgueil. Est-ce que tu veux nous dire en deux mots un peu?
Ben, l'orgueil, c'est quelque chose que nous vivons, tout le monde nous connaissons, nous l'avons subi, nous l'avons vécu, nous avons subi ses conséquences ou ses effets, et voilà, parfois nous avons aussi un peu d'orgueil chez nous. Ben, nous allons en découvrir plus aujourd'hui.
D'accord. Il va nous piquer.
Ben, en tout cas, bien, on vous invite Dieu à nous accompagner dans ce temps de partage pour nous permettre de grandir et nous approcher de lui.
Amen. Bon, Nevin, tu nous proposes aujourd'hui, comme on vient de dire, un thème pas évident, l'orgueil. Et puis j'ai choisi de préparer notamment la chronique Dieu dans ma semaine. Oh là là, l'introspection et la réflexion en tête à tête avec Dieu que j'allais devoir faire. Bon, en même temps, j'avais qu'à juste choisir une autre chronique hein, et laisser mes collègues du jour s'y frotter. Hein. Mais non, en vrai, c'est un vrai plaisir de relever les défis que cette chronique m'invite à vivre avec Dieu. Et puis de toute façon, j'embarque après souvent Brian avec moi dans mes chroniques.
Ouais, et ben ça a pas loupé.
Hein. Voilà. Alors, j'ai des défauts que mon mari, mes proches, mes moins proches, ont la bienveillance ou pas de me faire remarquer. Mais l'orgueil, c'est pas quelque chose de flagrant qui revient pour me décrire. Je me suis donc dit, puisque je suis humaine, je devais faire preuve d'orgueil des fois de manière moins visible que d'autres, que cela devait être plus subtil, sans en être du coup moins grave. Et je voulais que le Seigneur m'ouvre les yeux sur toutes les situations où la ligne entre la saine estime et assurance de soi et l'orgueil était dangereusement franchissable pour moi. Alors Brie, mon chéri, et moi sommes partis nous balader en forêt autour de chez nous, une heure de balade dans la nature pour se ressourcer et discuter.
Et nous voilà en train de réfléchir ensemble. Et toi, dans quelle situation tu te dis que peut-être tu as fait preuve d'orgueil? Avec qui, avec quel public tu peux te montrer orgueilleuse, orgueilleux?
Alors on a commencé à échanger sur des situations qui nous revenaient. Bah, je pense que, tu sais, je pense à quand, exposition de la situation. T'en penses quoi? Analyse de la situation évoquée, piste de réflexion sur le pourquoi du comment.
Bref, cette réflexion sur l'orgueil nous a fait réaliser qu'elle était liée à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres thèmes. L'estime de soi, l'ego, la confiance, l'identité, le regard sur l'autre, les préjugés dont tu vas parler la semaine prochaine, Nevin.
Et au fil de la discussion, nous avons réussi à petit déceler des domaines dans nos vies, des situations où nous pouvions potentiellement être attaqués par le mal et faire preuve d'orgueil.
Être des chrétiens engagés, ça peut rendre orgueilleux. Servir dans la musique, ça peut rendre orgueilleux.
Pour d'autres, réussir dans ses études, avoir un travail qui rémunère très bien, avoir une belle maison, les biens qu'on possède de manière générale, avoir la famille qu'on projetait d'avoir, savoir faire quelque chose d'un peu unique, être beau selon les critères de la société. Et je pourrais continuer encore longtemps.
Nous voilà bientôt arrivés à la fin de la balade. On s'est demandé ce qu'on allait faire maintenant qu'on avait identifié certaines situations où la tentation de l'orgueil pouvait être forte.
Alors, on a soumis tout cela à Dieu, on lui a demandé son aide, on a prié ensemble et puis on s'est dit qu'on essaierait d'être les garde-fous l'un de l'autre. Ça aussi, ça nous a plongé dans une nouvelle discussion sur comment concrètement tu aides celui ou celle que tu aimes à se rendre compte quand il fait preuve d'orgueil. Merci Navine, ça nous a vraiment travaillé.
Vraiment.
On a trouvé nos pistes à nous et on demande à Dieu de nous aider.
Alors, petite conclusion de ce court partage. Petit 1, se balader dans la forêt, ça fait du bien pour le corps et pour l'âme.
Petit 2, quand tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux, ça pique parce qu'il répond, mais c'est salvateur. Hein. Il te laisse pas galérer tout seul avec ce que tu as réalisé, il t'accompagne et t'aime très fort malgré tes défis.
Petit 3, c'est chouette de pouvoir trouver une personne de confiance avec qui pouvoir échanger sur ces sujets un peu épineux, avec qui prier ensemble.
Et petit 4, se rappeler qu'en Jésus, on a déjà la victoire, la clé, ça reste et ça restera Jésus.
Yes, et pour conclure cette chronique, je te propose d'écouter un rap de Mick qu'on connaît beaucoup ici, le titre s'intitule « Près de vous », dans lequel lui, le musicien chrétien, l'artiste reconnu au service de Dieu, implore les prières, l'intercession de son public croyant pour l'aider à lutter contre l'orgueil.
Il a cerné son défi d'orgueil à lui, et moi, et toi.
Il est beau, royal, majestueux, aimable, oui, doux, au baiser. Ah, c'est moi, c'est mon vivant portrait, oui. Aïe.
J'additionne clap et caisse claire, puis je mets des instruments qui peuvent plaire. J'ai le flair et m'inspire d'experts, et j'écoute ce que la télé suggère. Je me fiche de l'argent qu'on peut se faire, tant qu'on donne de l'amour je prospère. Et il n'y aura pas d'histoire, j'espère, qui viendront nuire à mon atmosphère. Je dis ça sur ma feuille, mais est-ce vraiment sûr que je le veuille? Car ici poussent les fleurs de l'orgueil qui empoisonnent ceux qui les cueillent. Si facile de céder après les concerts et laisser des la grosse tête qui me guette. Donc faites-moi descendre si je me la pète. S'il vous plaît, gardez-moi près de vous. Ne laissez pas le succès me rendre fou. J'ai besoin de vos lumières, du soutien, de vos prières. Trop de gens aveuglés par la gloire pleurent sur la fin de l'histoire. Écris-moi d'où je viens au marqueur, que jamais je ne me sens supérieur. Je bosse dur, mais pour les bons objectifs, car le fric m'exclut. Quand on aime, on se donne les moyens. Quand on a les moyens, on n'aime plus. Mais ce serait mentir que de vous dire qu'il m'est facile de fuir mes désirs. J'ai beau parler de foi dans mes rimes, je reste vulnérable au sexe et à la frime. Supérieur à personne, j'ai voulu dans ce qui me passionne. La musique, la rythmique, le poétique devant mon public. Mais je reste un homme égoïste et pécheur. Et bien que tout cela m'écœure, je l'avoue, je suis comme ça mais pas fier. Donc j'ai besoin de vos prières. S'il vous plaît, gardez-moi près de vous. Ne laissez pas le succès me rendre fou. J'ai besoin de vos lumières, du soutien, de vos prières. Trop de gens aveuglés par la gloire pleurent sur la fin de l'histoire. Écris-moi d'où je viens au marqueur, que jamais je ne me sens supérieur. S'il vous plaît, gardez-moi près de vous. Ne laissez pas le succès me rendre fou. J'ai besoin de vos lumières, du soutien, de vos prières. Trop de gens aveuglés par la gloire pleurent sur la fin de l'histoire. Écris-moi d'où je viens au marqueur, que jamais je ne me sens supérieur. La confiance en soi se développe, mais comme au sport, les tricheurs dopent. Quand je parle trop, la fierté m'enveloppe. Quand je pense trop à moi, dis-moi stop. Je suis si riche lorsque l'on m'entoure, si fort quand l'humilité me couvre, si pauvre quand mes pensées noircissent, et si seul quand mon cœur s'endurcit. Je suis conscient de qui je suis, donc c'est mon mauvais côté que je fuis. Et je veux pas faire l'erreur ultime d'être un homme qui se surestime. Si mon attitude change, si ma façon de parler dérange, c'est que j'ai besoin de panneaux sur ma piste pour être un homme plus altruiste. S'il vous plaît, gardez-moi près de vous. Ne laissez pas le succès me rendre fou. J'ai besoin de vos lumières, du soutien, de vos prières. Trop de gens aveuglés par la gloire pleurent sur la fin de l'histoire. Écris-moi d'où je viens au marqueur, que jamais je ne me sens supérieur. S'il vous plaît, gardez-moi près de vous. Ne laissez pas le succès me rendre fou. J'ai besoin de vos lumières, du soutien, de vos prières. Trop de gens aveuglés par la gloire pleurent sur la fin de l'histoire. Écris-moi d'où je viens au marqueur, que jamais je ne me sens supérieur.
La promesse du jour que j'aimerais te partager se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5 et le verset 6. Il est dit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Alors l'un des mots qui est employé pour définir le mot humilité est le mot niveler, qui veut dire remettre à niveau. Et ça m'a tout de suite fait tilt, car il y a quelques semaines, moi j'ai dû refaire mon jardin et j'ai dû niveler le terrain pour que l'herbe puisse pousser tous au même niveau. En fait, on fait généralement ça pour avoir un beau jardin, un jardin harmonieux. Et ben, je crois que j'aime l'idée que Dieu souhaite que nos rapports soient nivelés, des relations saines, restaurées où personne n'est plus haut que l'autre. Alors que Dieu t'accompagne comme il le fait jusqu'à présent et que cette promesse fasse écho dans ta vie.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Merci pour cette promesse brillante, puis je t'ai imaginé dans ton jardin, dans notre jardin. Pour cette chronique Louange en musique, j'ai d'abord cherché des chants qui parlaient d'orgueil, du coup. Puis j'ai changé d'avis, parce que je me suis dit que rien de tel que se tourner vers Dieu, écouter des chants qui parlent de la grandeur de Dieu, de son action, de qui il est, pour nous permettre et nous remettre à notre juste place, hein, et le remettre à sa juste place. Alors je t'invite à écouter deux chants. On commencera par J'essaierai encore du groupe La Chapelle.
Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu éternel et infini. Tu es Dieu qu'aucun mot
mots sont impairs. prosternant nos cœurs, inclinant nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oh, tu es digne, tu es digne de recevoir la louange et la gloire.
Brillant, cette semaine, c'est toi qui es allé rechercher un témoignage de l'action de Dieu dans les vies. Qui vas-tu nous introduire ?
Alors, c'est une personne qui s'appelle Chris Compion. Alors, auditeur, auditrice, peut-être que tu le connais déjà. C'est un pasteur chrétien largement diffusé sur Internet. Tu peux notamment trouver des prédications de lui sur YouTube. Alors, Chris a vécu longtemps dans le monde forain, une profession passion qui s'est transmise de père en fils. Et dans l'extrait du témoignage qui va suivre, il explique le cheminement qui l'a amené à se rendre compte de son orgueil. Et surtout, le chemin qui l'a amené à se rapprocher de Jésus. Alors, si tu souhaites voir son témoignage dans son intégralité, je t'invite à te rendre sur la chaîne YouTube de La vie témoigne de lui. Témoignage de Chris Compion. Eh bien, bonne écoute.
La vie a fait de moi quelqu'un un petit peu, si vous voulez, en retrait, mais toujours assez en avant. Alors je m'explique. En retrait parce que je me donnais pas pleinement. Mais j'aimais quand même prendre les choses en main. Mon père m'a toujours appris justement à être un homme. Et puis chez nous, un homme, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui s'affiche, qui s'affirme. Qui a pas besoin de s'excuser même s'il a tort. Qui a besoin justement de désigner les choses par le doigt et mettre des noms à ces choses-là. Je vais être honnête aujourd'hui devant vous, devant ma propre personne et devant le Seigneur, je me croyais quelqu'un. Et je pense que le plus grand des problèmes pour l'être humain, c'est de se croire quelqu'un et de croire qu'il a besoin de personne. D'arriver devant l'épreuve et pouvoir franchir ses épreuves tout seul. Pas avoir besoin de son prochain, puis encore moins avoir besoin de Dieu. Et puis on a été élevé dans un contexte qui était comme ça. Puis un forain, depuis son plus jeune âge, on lui a pas appris à travailler pour quelqu'un, on lui a appris à devenir patron. À être fier de ce qu'il est, à commander sa femme, à dire à ses enfants, fais ci, fais ça, t'as pas besoin de l'école. C'est notre éducation. Et quand l'évangile est venu frapper mon cœur, ça a été une tornade dans ma vie. J'ai pas fait 50 assemblées, 50 réunions. J'ai été à une réunion pour faire plaisir à la fille qui est devenue ma femme aujourd'hui. Elle était mate de peau, elle était blonde, elle était du sud. Elle me dit, est-ce que tu veux venir à la réunion? Ben, j'ai flanchi les genoux. Mais je vous dis la vérité, moi je suis un garçon de Paris et je savais que dans le milieu des tziganes, il y avait des gitans du sud qui étaient devenus des évangélistes, des chrétiens. Ils prêchaient très fort, ils jouaient très très bien de la musique. Donc quand je suis rentré dans cette réunion, je dis, ils vont créer quelque chose et ils vont essayer en quelque sorte avec une atmosphère particulière de toucher mon cœur, de toucher mes sentiments. Donc je suis rentré avec une colère dans la réunion parce que je me suis senti comme un, je sais pas comment je pourrais dire, comme un petit ver qui allait se faire manger. Vous voyez ça? Et je suis rentré pas disposé dans la réunion. Alors forcément, ils ont joué de la musique. Ils chantaient très bien, ils ont prêché très fort. Et je dis, ça y est, ils sont en train de créer l'ambiance. Et là, dans mon cœur, il y a eu comme une révolte. Et je suis parti de la réunion. Et quand je suis parti de la réunion, la fille qui m'avait emmené m'a demandé comment j'avais trouvé cette réunion-là. Et moi, pour moi, aller savoir pourquoi, je croyais que être chrétien était quelque chose que les gitans avaient adopté pour être moderne. Et pour moi, quelqu'un qui n'était pas gitan ne pouvait pas être chrétien. Aller savoir pourquoi, c'était comme ça dans mon esprit. Et je lui ai dit ça simplement, je lui ai dit, si tu m'emmènes dans une réunion où il n'y a aucun gitan, je dis peut-être que je reviendrai. Et elle m'a dit, en ville à Perpignan, elle a dit, il y a une église comme ça, puis elle m'a invité à cette réunion, j'y étais. Mais là, je n'ai pas été pareil. J'y étais, si vous voulez, avec une autre approche. Parce qu'un gitan qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, moi qui a besoin de personne, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'apprenne? Une sorte de fierté qui aujourd'hui, on appelle ça de l'orgueil. Hein. Je suis rentré dans cette réunion-là, j'ai vu un monsieur bien habillé, un monsieur qui parlait calmement, avec pas une musique forcément que j'aimais. Moi j'étais musicien, guitariste avec mes goûts à moi. Mais j'ai compris une chose, c'était que le message qu'ils avaient annoncé chez les gitans, et le message qu'ils annonçaient ici, c'était le même. J'ai compris que c'était pas dans un volume sonore ou dans une manière de faire, c'était qu'il y avait réellement un message qui était derrière. Et quand je suis sorti de cette réunion-là, j'étais à Perpignan et j'ai été pour me prendre un billet d'avion à l'aéroport pour retourner chez moi à Paris. Et là, il y a une voix qui résonnait dans mon esprit, dans ma tête. Et ça faisait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pensais avoir vu ça à la télé, écouter ça dans une émission de radio quelque part. Et j'écoutais, je réalisais pas que c'était des mots de la Bible, que c'était ce que Jésus était en train de dire sur la croix quand il était en train de mourir pour moi. Je roule, j'arrive dans l'aéroport. Ah, imaginez-vous la scène. Bonjour madame, pouvez-vous me mettre un billet d'avion pour retourner à Paris? Et là, la voix se fait résonner dans mon cœur, mais comme une épée qui a traversé mes pensées et qui est rentrée dans mon cœur. Ça a fait peur. Pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et là, je me suis mis à pleurer, il y a deux sentiments qui ont envahi mon cœur. J'ai eu envie de demander pardon et de dire merci à Jésus, en même temps j'étais chamboulé. Je suis parti dehors en courant, et moi j'étais un homme du monde, un garçon qui buvait, un garçon qui fumait, un garçon qui se battait. Et il y avait un garçon qui m'attendait dans la voiture, il me voit sortir en pleurant, il croyait que je m'étais battu dans l'aéroport. Il dit, qu'est-ce qui se passe Chris, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais honte, mais c'était tellement fort cette vérité que je venais de recevoir. Je dis, Jésus est la vérité. Jésus est vivant. Je suis un chrétien. Et là, imaginez-vous le chamboulement dans ma vie. Parce que de vivre un surnaturel sur des écrits d'il y a 2000 ans, c'est quelque chose. Mais de le vivre personnellement, parce que c'est quelque chose d'actuel avec Dieu. Par la suite, la fille qui m'avait emmené à cette réunion est devenue ma femme. Aujourd'hui, on a une petite fille qui est en bonne santé. Dieu m'a appelé à son service. et dans un milieu où il n'y avait aucun chrétien, aujourd'hui, sur les fêtes foraines dans la France entière, et on commence à aller faire des réunions en Allemagne, on commence à aller faire des réunions en Belgique, à la frontière de l'Italie, à la frontière de l'Espagne, il y a des forains qui se convertissent dans toute la France, et ça part dans l'Europe. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui a changé nos vies. Je joue toujours de la guitare. Je suis toujours un commerçant. Et je suis toujours un forain. Mais j'exerce ce que Dieu m'a donné dans le milieu dans lequel il m'a tiré. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et puis si j'aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, que tu aies des problèmes ou pas de problèmes, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer celui qui peut rendre toutes choses possibles. Ce n'est pas une attitude que tu dois adopter par des efforts, mais toutes les religions du monde vont t'expliquer comment aimer Dieu. Alors que ce que Dieu te demande, c'est de t'asseoir et de te laisser aimer par lui. Parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Que Dieu vous bénisse.
Alors voilà, après ce beau partage, que vas-tu nous partager, David ?
Ben, nous allons découvrir ce qu'est l'orgueil à travers un récit. Je vous propose de trouver à travers le récit de Nabucodonosor, un roi de Babylone. Si vous voulez lire plus davantage sur ce récit, vous pouvez trouver cette histoire dans la Bible, dans ce qu'on appelle la première partie de la Bible, le Premier Testament, dans une section de cette partie qui s'appelle le livre de Daniel. Alors pendant cette histoire, je voudrais que tu te poses la question. Est-ce que je me retrouve dans le comportement de ce personnage ? C'est l'histoire de Nabucodonosor, un homme de pouvoir et très puissant. C'était le chef d'une grande nation. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, et Babylone était la puissance montante de l'époque. Selon les historiens, Babylone exerçait une profonde influence politique, sociale et culturelle sur le Proche-Orient. Après la chute de l'Empire assyrien, c'était l'Empire babylonien qui était l'Empire montante. Ainsi, Nabucodonosor, c'était le leader de cet empire. Il guidait souvent ses troupes à la bataille. C'était un vrai conquérant. C'était le Napoléon de l'époque. Alors il s'attaquait cette fois-ci au peuple de Juda. Ceux-ci étaient les frères des autres Hébreux qu'il avait déjà conquis. Le royaume de Juda, pourtant, il présentait une résistance plus grande. Et eux attribuaient cela à leur confiance qu'ils plaçaient en Dieu, celui qu'ils appelaient le Dieu unique, l'Adonai, le Je suis. Or, le nom de ce Dieu avait rempli souvent plusieurs nations environnantes de frayeur et de crainte, car ce Dieu avait fait des miracles et des prodiges pour ses adorateurs. Mais Nabucodonosor ne craignait pas cet Adonai. Lui, il disait, mais qui est cet imposteur d'Adonai ?
Hein ? Il allait vite savoir.
En tout cas, il haranguait. Et il disait, moi, j'ai déjà défié ses enfances et je vais encore les vaincre. Et ainsi, il va le faire. Présomption ou estime exagérée, mais Nabucodonosor va vaincre effectivement le royaume de Juda. Et pour démontrer sa supériorité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre les objets sacrés du temple des Hébreux et va le mettre dans la maison de son Dieu.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, si d'aucuns avaient des doutes sur qui était le plus grand, ben voilà, il n'y a plus de doute, c'est lui le plus grand, c'est lui le Dieu des dieux. Mais était-ce seulement une question de pouvoir ? C'était ça, parce qu'il était quand même le leader le plus grand de l'époque. Peut-être qu'il y avait plus, car il était l'homme le plus puissant de son monde. Et pourtant, il se conduisait comme un roi qui se sentait menacé. Comme quelqu'un qui sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand. En cause, c'était la divinité, le Dieu des Hébreux. Alors tout commença par un rêve qu'il va oublier. Il ressentit pourtant l'importance de ce rêve, parce que la croyance de l'époque, c'était que les dieux se révélaient aux hommes, surtout aux rois, à travers les songes. Mais puisqu'il l'avait oublié, il se sentit impuissant. Alors il va faire appeler ses magiciens, ses astrologues qui avaient vocation d'expliquer et d'interpréter les rêves. Mais il va leur demander l'impossible. Il va non seulement leur demander de l'interpréter le rêve, mais il va leur demander de...
De dire c'est quoi le rêve.
Exactement, mais c'est pas possible, n'est-ce pas ? Qui peut faire cela ? Et il va le faire sous menace de mort. Compliqué.
Pression. Il est difficile, ce monsieur. Hein.
Ben, imaginez-vous la réaction des magiciens.
Bah, ils se sont dit, on va mourir, quoi.
Pas seulement. Ils vont prendre courage et ils vont dire, mais ce que le roi demande est pas raisonnable.
Pas juste, quand même, là.
T'as raison, te fait défaut, roi. Réfléchis donc, malgré ta position aussi grande, ta requête est insensée. Comparé aux autres rois, tu commets ici une grave erreur. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Eux, ils avaient compris. Mais le roi, non. Imaginez-vous la colère qui va remplir Nabucodonosor, n'est-ce pas ? Et il va éclater de colère parce que, en tant que roi, il avait l'assurance quasi constante d'avoir raison. L'orgueil, hein ? L'orgueil rendit le roi aveugle à ses propres défauts. Il lui fit refuser a priori toute critique et haïr tout reproche et toute réprimande. Et lui rendit intolérable d'être commandé et de devoir se soumettre à qui que ce soit. N'est-ce pas ici les traces de l'orgueil ? Et il va ordonner qu'on fasse périr tous les sages de son royaume. Il accepte de tout perdre. Mais ironiquement, c'est Daniel, un hébreu, qui l'avait capturé et qui était à son service comme un sage, qui va lui relater et interpréter le rêve. Et ce Daniel, il va préciser avant de dire au roi son rêve, il va préciser, mais tu sais, le roi, c'est le Dieu qui est dans les cieux, mon Dieu, et mon Dieu hébreu qui m'a révélé ce rêve et qui te donne l'interprétation maintenant.
Voilà, ça c'est dit.
Eh oui, et bam encore. Et voici l'interprétation. Ton règne ne sera pas un règne éternel. Ton royaume, il sera simplement temporaire. Parce que le royaume éternel, et celui qui contrôle l'histoire, ben, c'est mon Dieu. C'est le royaume de mon Dieu, c'est le royaume de Dieu, et non le tien. Là, Nabucodonosor va accuser la défaite. Il va reconnaître qu'il y avait plus grand que lui, il va se prosterner devant Daniel, il va reconnaître la grandeur de son Dieu. Mais son orgueil avait été blessé. Pourtant, quelques temps après, il va décider d'aller contre l'interprétation de ce rêve. Il va construire, avec l'esprit de contradiction de l'orgueilleux, va construire un monument complètement en or. Parce que dans la vision qu'il avait reçue, c'était simplement la tête qui était en or. Ici, il va construire un monument qui était complètement en or. Et il va demander à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Mais les amis de Daniel ne vont pas le faire. Lorsque le roi va voir cela, il va se mettre en colère encore une fois, bam, les menacer de mort, il va faire surchauffer un four, il va les jeter, les trois amis de Daniel, pieds et mains liés, dans le four, et ensuite il va regarder dans le four. Que voit-il dans le four maintenant ? Au lieu de voir trois hommes, pieds et mains liés, qui souffraient, il va voir quatre. Quatre hommes, les pieds et les mains libres. Et le quatrième homme ressemblait à un être divin. Encore une fois ébahi, Nabucodonosor va faire ouvrir le four, et trois hommes vont sortir de ce four, pieds et mains libres, et encore intacts, pas de marque de blessure.
Incroyable.
Leur Dieu les avait protégés, une fois de plus. Et Nabucodonosor va encore une fois de plus être touché, il va se prosterner à nouveau, son orgueil va être blessé. Celui contre qui il luttait était plus fort que la mort. Mais est-ce qu'il avait compris ? C'est la question. Cet événement l'avait fait changer d'avis peut-être ? Il va avoir un autre rêve. Il ne l'oublia pas cette fois-ci. Mais une fois encore, ce fut Daniel qui va venir pour interpréter ce rêve. Et c'était cette fois-ci un message d'avertissement de la part de Dieu. S'il ne changeait pas d'attitude, cette attitude arrogante, hautaine, ce comportement orgueilleux, il lui arriverait quelque chose de terrible. Mais une fois encore, le roi fit fi de ce message. Il se montra encore plus arrogant, hautain, orgueilleux. Il ne reconnut pas la main de Dieu dans sa vie. Après un temps, exactement selon son rêve, il va tomber au plus bas. Il perdit tout. Son trône, son royaume, sa fierté, sa personne. Il va devenir comme un animal pendant ces temps. À la fin de cette période, quelque chose de miraculeux se produit cependant. Et maintenant, il va raconter ce qui va se produire. Il va dire « Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Dieu grand, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Il continue, il va dire « Moi maintenant, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Quelle histoire, n'est-ce pas ? L'orgueil. Oui, un mal qui est imperceptible à l'œil nu. L'orgueil est un mot que nous confondons souvent avec ambition, avec pouvoir. Bien que le concept de l'orgueil inclut la notion de fierté, d'ambition, de pouvoir, il dépasse tout cela, car l'orgueil concerne l'être intérieur. Il concerne l'opinion qu'on a de soi, la vision qu'on a de son ego. L'orgueil, c'est quoi ? C'est refuser de reconnaître ses limites. C'est de se croire sans limites. Oui, Certains diront qu'il faut un peu d'orgueil quand même pour réussir dans le monde actuel. La vérité est que la société est devenue tellement centrée sur soi que pour réussir, l'autre est souvent perçu comme celui qu'il faut écraser, battre, mettre de côté. Quelqu'un va dire, nous sommes dans une société où, par le biais des réseaux sociaux, une promotion de soi inquiète et constante est encouragée, au cas où les autres ne penseraient pas à nous regarder. Et quelqu'un d'autre va dire ceci, vouloir prendre confiance en soi est une bonne chose, mais le faire en essayant de se hisser au-dessus des autres n'est pas l'idéal. Car à force d'avoir un comportement orgueilleux, on s'identifie à ce comportement et on le devient. Alors, gars, serait-il donc un mal nécessaire ? Pas du tout. Parce que l'histoire de Nabucodonosor nous montre qu'au final, l'orgueil est au service de la personne elle-même. Parce que la première préoccupation de cette personne, c'est elle-même. Elle ne reconnaît d'autre autorité que la sienne. Au milieu d'une foule, l'orgueilleux ne voit rien d'autre que sa personne et ses biens. Mais il y a plus aussi. Ne pas voir l'autre, c'est aussi ne pas voir Dieu. Ne pas reconnaître l'existence, la présence, l'influence et l'œuvre de Dieu autour de soi. C'est faire tout pour tenter de le contrer, de le contredire, de l'anéantir, de le combattre. C'est pour cela que Thomas d'Aquin a placé l'orgueil parmi les 7 péchés capitaux. Parce que pour lui, c'était le péché le plus grave qui existe. Car ne pas reconnaître l'existence de Dieu, la présence et la réalité de Dieu, c'est risquer même de mettre l'humanité et voir soi-même au centre de tout. Mais l'histoire de Nabucodonosor nous enseigne que Dieu aime aussi la personne orgueilleuse. Il l'interpelle.
Il est grand, mon Dieu.
Il l'appelle. Il lui offre de voir et de ressentir sa présence et son amour. Comme le roi, nous pouvons résister, nous pouvons lutter, nous pouvons nier, nous pouvons menacer, nous pouvons fermer nos yeux. Mais comme lui, nous pouvons aussi, lorsque notre attitude orgueilleuse nous conduit vers le fond, nous pouvons lever les yeux, nous pouvons regarder en haut, nous pouvons lever notre tête et finalement reconnaître la vérité d'un Dieu d'amour. D'un être qui, même en étant plus grand que moi, prend soin de moi et de ceux qui m'appartiennent. Et cela, malgré la méchanceté et la dépravation de l'humanité. Oui, l'orgueil se révèle parfois dans une certaine agressivité, une ironie acerbe, une aigreur dans les réponses aux questions d'autrui, une animosité générale. La volonté d'avoir raison, l'attitude du donneur de leçons sont autant de déclinaisons de l'orgueil, tout comme le fait de s'attribuer les mérites et de rejeter la responsabilité des échecs sur les autres. Est-ce que tu te reconnais ici ? Oui, l'orgueil détruit et il isole. Mais Dieu t'aime. Et il désire te donner la liberté. Tu te poses peut-être la question, pourquoi ? Ou comment vaincre l'orgueil ? Pourquoi le vaincre ? Il faut le vaincre parce qu'au final, il va nous détruire, il va te détruire. Il va détruire tous ceux qui sont autour de toi. Mais comment vaincre l'orgueil ? Une première étape, peut-être, qui est la plus difficile, c'est reconnaître qu'il est en toi. Reconnaître que toi aussi tu peux être orgueilleux. Prendre conscience que cette attitude destructrice t'anime et aussi réaliser ses conséquences en toi. Tu peux peut-être te poser la question, dans le fond, pourquoi est-ce que je veux être le chef de service ? Ou dans la dernière discussion où je suis allé jusqu'au conflit, c'était pour quelle raison en fait ? Ou pourquoi est-ce que j'ai humilié quelqu'un dans la réunion ? Pourquoi ? Aussi, rappelle-toi de tes échecs. Rappelle-toi combien tu dépends des autres aussi. Demander de l'aide et reconnaître ce besoin d'aide permet aussi de ne plus se ressentir au-dessus de l'autre et libère de l'orgueil. Mais rappelle-toi aussi que Dieu t'aime et qu'il veut te libérer, qu'il veut te donner sa grâce, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas le centre du monde, mais qu'il y a un être dans le ciel qui t'aime. Et qui veut ton bien, qui veut t'aimer et te conduire, t'élever au plus haut sommet, mais être avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Orgueil, orgueil, quand tu nous tiens. Merci Navin pour ce partage qui nous a donné, qui nous donne à réfléchir et qui donne à réfléchir. Bien, je voudrais proposer à l'équipe de chroniqueurs et à toi aussi de partager sur ce que cette réflexion nous a, nous inspire, mm-hmm. comment elle peut nous interpeller. Mm. Alors, c'est parti, allons-y.
Voilà, première chose, moi, qui m'a vraiment interpellée, c'est la persévérance de Dieu. Tu vois, dans l'histoire du roi Nabucodonosor, il y a trois fois, trois rêves, là, dont tu parles, trois situations, deux rêves et la situation au milieu avec la fournaise, là. Tu te dis, mais ce gars, il comprend pas, tu vois. Premier rêve, tac, Dieu l'interpelle, puis il se rend compte qu'il est... Puis hop, il construit sa statue, puis après, troisième rêve, il comprend toujours pas. Et puis le Seigneur, eh ben, il lâche pas l'affaire. Non pas dans l'agressivité, dans beaucoup d'amour, beaucoup de liberté, mais il est là, quoi. Il est persévérant et lui, il est extrêmement patient. Ça, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, c'est aussi signe d'espoir pour moi et pour nous. Parce que nombre de fois dans nos vies, peut-être pas dans les dimensions de l'orgueil, on n'a pas les mêmes, on n'est pas roi du monde, quoi. Hein, mais je veux dire, dans nos vies aussi, le Seigneur, il est derrière nous et il nous accompagne. Ça, ça m'a touchée. Le deuxième truc, c'était l'humilité de Dieu. Mmh. Tu vois, on voyait ce roi, puis après, tu as évoqué plein de situations où nous-mêmes, concrètement dans nos vies, on en parlait dans Dieu dans ma semaine, puis je me disais, mais... Je pense à Jésus à côté, tu vois, roi des rois, seigneur des seigneurs, saint des saints, qui descend sur terre et qui est tellement humble. Et c'est une grande, ça m'a, voilà, j'ai pensé à ça aussi en me disant, face à cet orgueil humain, Dieu est tellement, tellement au-dessus de nous parce qu'il a cette humilité dans sa divinité, dans sa grandeur. Ça m'a inspiré, quoi.
Ouais, c'est clair que l'exemple de Jésus est absolument incroyable par rapport à l'humilité. Moi, il y avait deux choses qui m'ont bien marqué. C'est les tensions qu'il y a entre... Tu parlais, c'était assez fort, l'idée de Daniel qui interprète les rêves et qui replace toujours tout ça sous le nom du Seigneur. Parce que ça peut être, c'est un don qui lui a été donné.
Il aurait pu être orgueilleux.
Il aurait pu être largement être orgueilleux, mais il remet toute chose à Dieu. Et le contrebalancement avec Nabucodonosor qui se croit tout puissant et tout. Alors, cette tension-là, je
même
la trouve
dans cette
très.
C'est une contradiction parce qu'il se sent tout puissant, mais il ne se rappelle plus de son rêve.
C'est ça, exactement. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a aussi une clé, c'est que même la clé, c'est la relation que tu peux avoir avec Dieu. Je pense que Daniel était très, très proche de Dieu dans sa relation. Parce que Nabucodonosor, au début, il dit, je reconnais que c'est lui, je reconnais sa puissance. Et puis en fait, ça revient au galop, l'orgueil revient au galop. Et puis, voilà, je pense que dans nos relations, on doit prendre exemple aussi dans le fait d'essayer d'être proche de Dieu, d'essayer d'être accompagné par lui, parce que lui, il nous accompagne, mais nous, est-ce qu'on est toujours avec lui? Ça, je sais pas.
Notamment, Daniel, il priait beaucoup. Il passait beaucoup de temps de prière avec Dieu, et c'est une clé. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Cultiver ta relation avec Dieu, parce que Dieu inlassablement souhaite être en relation.
Et puis parce que l'orgueil est tapis dans l'ombre, et tu le disais dans ta chronique, on sait pas vraiment des fois si on est orgueilleux. Alors, il y a la caricature de l'orgueil tout puissant, mais il y a aussi cette petite partie de l'orgueil enfouie en nous parfois, et toi, Marilyn.
Oui, mais c'est moi ce qui m'a marqué, c'est de prendre conscience que cette dimension d'orgueil, c'est cette autonomie. On a besoin de personne. Et que Dieu, du coup, en fait, il nous propose... cette attitude fait qu'on n'arrive pas, on ne peut pas être en lien vraiment ni avec les autres, ni avec Dieu. Et que Dieu nous propose de l'humilité pour faire avec nous. Mmh. Enfin, et c'est pas forcément nous amener et nous laisser en bas, mais faire avec nous et nous faire grandir, quoi.
Une coopération...
Ouais. Qui va complètement à l'envers de ce qu'on nous propose dans la société.
Dans la société.
Où compte sur toi, les ressources sont sur toi, tu trouveras en toi. Ouais. Et là,
L'humilité, ce n'est pas une vertu qu'on aime mettre en avant.
c'est clair.
On n'aime pas dire je suis humble.
Ça fait un peu faible.
Ça fait orgueilleux de dire qu'on est humble.
Oui, mais je sais pas si on le dit forcément, il faut le dire, mais.
Oui, mais c'est pas quelque chose qu'on met en avant. On veut pas paraître la personne et humble ou quoi, parce qu'on a toujours une idée de, il est faible cette personne. Alors que l'orgueil, c'est la personne qui est là, elle peut tout supporter, tout subir, elle ne doit pas être écrasée. Mais ce que je comprends dans cette méditation, que c'est tout ça, c'est une image simplement. C'est ce qu'on met en avant, mais à l'arrière, la personne est en train peut-être de mourir, d'être écrasée, et il écrase tout le monde autour de lui. Juste parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un autre qui est plus grand. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très dangereux pour la personne elle-même, pour nous-mêmes.
Eh bien, merci pour ce beau partage. Et on garde cette pensée que tu disais à la fin, que Dieu nous aime dans tout ça et qu'il nous accompagne. Merci. Et toi, auditeur, comment ce thème a pu résonner chez toi ? On l'a évoqué, c'est assez connu, le monde de la musique est un terrain où l'image de soi, le regard des autres et le succès peuvent prendre des dimensions un peu non adaptées. C'est pas le seul, mais c'est un des endroits. Et dans cette chronique Dieu dans les arts, eh bien, je voudrais partager le parcours d'un conducteur de louanges bien connu du monde chrétien, Matt Redman. Et plusieurs de ses chants sont d'ailleurs interprétés maintenant à travers le monde, dans différentes langues. Et ils ont été principalement composés dans son église, Soul Survivor, en Angleterre. Et aussi, ben, ce même nom de son église, ça a aussi été le nom d'un festival qui a eu lieu sur plusieurs années et qui, selon ce qu'il nous partage, a en tout cas accueilli jusqu'à 15 000 personnes sur la semaine. Donc incroyable. C'est quand même... assez sérieux. Assez sérieux. Alors, sur son ministère de louange, eh bien, il a commencé sur les encouragements de son pasteur. Il était dans le groupe de jeunes de son église, et puis son pasteur, Mike Pilavacci, il l'a encouragé à jouer davantage, à s'impliquer, à jouer de la guitare et commencer à diriger la louange. Alors, il s'est senti privilégié d'être dans cet environnement où on fait naître le talent et où on encourage à avancer. Et puis, avec le temps, ça a aussi été quelque chose de plus graduel où on apprend et puis plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Et c'est un peu comme ça qu'il a grandi dans ce ministère. Et il raconte qu'il a vécu une saison troublante en tant que conducteur de louanges, alors que son église était toute jeune, enfin assez récente. Eh bien, il y a eu un changement dans leur vécu de la louange. Il n'y avait plus cette vibration, où il y avait plus, il manquait quelque chose par rapport à ce qui les caractérisait au début. Et bien, entre autres, ils se sont rendus compte que cette adoration n'était plus indépendante des circonstances, mais il y avait différents facteurs qui influaient le ressenti, la qualité. Est-ce que les gens vont rentrer dans la chanson? Est-ce que le son est bien? Est-ce que le conducteur du louange est apprécié? Alors, leur pasteur a fait une chose très courageuse. Il a pris le groupe et pendant une saison, il leur a dit, il les a mis en pause.
Donc plus droit de jouer.
Voilà, plus droit de jouer. Plus de culte, plus de... Voilà.
Donc ils pouvaient assister au culte, mais ils ne pouvaient plus l'idée.
Voilà, ils n'allaient plus l'idée les temps de louange pendant une saison, une période. Donc c'est un grand... Je pense que c'est une grande décision. Mais ce n'était pas des vacances. Hein. Il leur a donné un devoir. Dans une petite pièce à côté, dans l'église, eh bien, pendant ces temps de... Eh bien, ils allaient prendre sans la technologie, sans musique... Enfin, non, pardon. Sans système de son, sans système de lumière, etc. Eh bien, ils allaient adorer entre eux. Peut-être réapprendre à adorer sans dépendre de toute cette technologie qui était autour.
Puis le regard de l'assemblée.
Mais oui. Et ben oui, c'est des éléments qui sont utiles, hein, le son, la lumière, et puis d'avoir des gens avec qui on peut adorer. Mais il ne faut pas que la qualité de la louange en dépende. Et il raconte que ce fut un défi pour ce groupe, mais progressivement, ils ont commencé à retrouver ce qu'ils ont appelé le cœur d'adorateur. Ils ont pu retrouver une nouvelle fraîcheur au sujet de leur approche de Dieu dans l'adoration. Et c'est cette expérience de confinement technologique, comme vous pourriez dire. C'est de cette expérience qu'est né le chant que je vous partage aujourd'hui, le chant terminé. C'est-à-dire, il s'appelle « Je reviens au cœur » et il commence avec ces paroles. « Le chant terminé, le rideau retombe et je viens simplement porter mon offrande. » C'est le témoignage de ce qu'ils ont vécu ensemble dans leur groupe.
Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur.
Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi.
Je t'invite à un temps de prière, c'est Nevin qui va nous conduire dans celle-ci. Alors souvent à l'église, nous avons des personnes de confiance qui unissent l'assemblée dans la prière. Ces personnes nous aident à mettre des mots sur ce que nous ressentons, sur nos besoins, soumettre à Dieu. En tant qu'église, nous pouvons demander pardon à Dieu, nous pouvons dire du bien de Dieu, nous pouvons implorer son aide. C'est ce que nous allons faire ensemble, car là où deux et trois sont réunis, le Seigneur se tient au milieu d'eux. Alors si tu es d'accord avec ce que Nevin aura dit, en notre nom à tous, tu pourras dire Amen à la fin de la prière. Et cher auditeur, chère auditrice, sens-toi libre également de poursuivre cette prière chez toi avec tes mots, en parlant de ta situation, de tes besoins, en élevant tes propres louanges. Prions.
En effet, Dieu notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous connaît, celui qui nous aime, tu me vois tel que je suis en cet instant. Tu me connais. Tu connais mon être et mes pensées. Tu connais ce qui m'habite. Tu connais ce qui me trouble. Je suis devant toi et je suis à nu. Et je n'ai pas peur. Nous avons parlé ce matin, dans ce moment, de cet orgueil qui peut nous habiter, qui peut souvent, parfois, nous mettre une image que nous aurions voulu projeter, une image que nous aurions voulu mettre en avant pour parfois nous protéger, cacher des choses que nous ne voulons pas qu'on voit. Mais aussi, ce matin, pendant cette émission, nous avons aussi appris que souvent, à travers l'orgueil, nous faisons du tort. Du tort à nous-mêmes, du tort à ceux qui nous entourent, du tort à ceux que nous aimons. Et alors que tu mets dans notre cœur cette réalisation, cette reconnaissance, nous te prions de nous pardonner pour le tort que nous avons pu commettre à ceux qui nous entourent, à nos amis, à nos proches, à nos collègues, à notre famille, ou à nous-mêmes. Peut-être nous sommes comme Nabucodonosor, que nous avons lutté contre cette réalisation et contre ta présence dans notre vie. Et peut-être que nous sommes au plus bas maintenant. Mais tu nous invites à relever la tête. Tu nous invites à regarder vers toi. Tu nous invites à pouvoir reprendre conscience, reprendre confiance. À avoir de l'espoir à nouveau. Mais pas de l'espoir basé sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons faire, mais basé sur ce que toi, tu veux faire en nous. Alors, je te prie, relève ma tête et que tu puisses me remplir ma vie de ta présence et me remplir de confiance en toi et me diriger dans les lieux que tu veux, dans ce que tu veux que je fasse, que je sois une bénédiction, que je sois une source de joie maintenant pour ceux qui m'entourent et pour toi. Merci de nous écouter. En ton nom, nous te prions, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors maintenant, place à l'action. Et oui, ce serait trop simple de partir avec de belles paroles d'encouragement, de soutien, sans la mise en pratique. Merci Nevin. Je suis sûr qu'il y a des domaines dans ta vie où tu sens que tu as une certaine expertise, tu as des atouts, des compétences. Peut-être, on parlait tout à l'heure dans le jardinage, dans la médecine, la musique, l'informatique, le relationnel, dans le sport, le bricolage, le business. Bon, tu as compris, quelque chose que tu maîtrises. Mettons-nous en situation. Tu as ce dossier que tu gère pour un client et tu sais que tu n'as besoin de personne pour le traiter car tu maîtrises parfaitement les tenants et les aboutissants. Et bien même si tu maîtrises, que tu sais que tu y arriveras, et bien je t'invite à confier cette tâche car tu as besoin de Dieu. Ne repose pas tout sur tes propres forces, demande-lui son soutien, sa sagesse. Tu sais que tu vas recevoir ton diplôme, ta promotion, commencer un nouveau travail. Quelle joie, n'est-ce pas? Confie ces étapes de ta vie afin d'être toujours focalisé sur Dieu. Il t'accompagnera dans ce processus afin de rester humble vis-à-vis de l'autre. La situation ne manque pas, alors que Dieu puisse t'accompagner dans ce challenge, qu'il puisse t'aider à te découvrir plus et à le découvrir plus au travers de cette relation.
Oui, chouette, merci. Merci Brian.
Bon courage à vous.
Pour cette action, merci pour cette action que tu nous proposes. Un beau défi et un cheminement. Et d'ailleurs, il faudra le faire.
C'est pas un jour.
Et merci aussi Nafine pour ton partage. Merci les chroniqueurs pour vos recherches et ce que vous nous avez apporté.
Merci Marilyn.
Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir suivis. Que Dieu t'accompagne dans la suite de ton parcours. On te donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre sujet, les préjugés, c'est ça?
Ouais.
Alors, on va encore repartir. Et d'ici là, que Dieu vous accompagne, soyez bénis et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.